France Musique. Olympe de Gouges, de la plume à l'échafaud. La Révolution ne commence pas en 1789. Elle était faite dans les esprits avant de passer dans les faits. Tout aurait pu encore être évité lorsque Louis XVI monte sur le trône en 1774. Gouvernait alors le trio Maupoux, Terray, d'Aiguillon, impopulaire mais efficace. Ces derniers vont à l'encontre des idées des philosophes car ils contestent les traditions les mieux établies et s'attaquent aux croyances les plus solides. Face à l'opposition à toute réforme des parlements, Maupoux est conduit à prendre la mesure radicale qui s'impose. La suppression des parlements dans l'hiver 1771. Mais Louis XVI, sous l'influence d'un entourage où rayonne Marie-Antoinette, disgracie les responsables. Il rétablit les parlements et entame un long règne d'hésitation et d'erreur, l'un des plus désastreux de notre histoire. L'influence de Rousseau est alors considérable, plus que celle d'un Montesquieu attaché aux prérogatives des parlementaires, ou d'un Voltaire, bourgeois aisé, indifférent à la misère populaire. Avec ses confessions et sa nouvelle Héloïse, il touche un large public féminin qui lui assure sa célébrité. Il fallait être à la mode, et les salons tenus par les dames de la bonne société accueillent les encyclopédistes d'Alembert, Morlaix, Marmontel, Condorcet ou Quesnay. C'est à travers ces salons et un public féminin que se répandent les Lumières. La cour elle-même applaudit en 1784 le mariage de Figaro et la fameuse tirade « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. » Marie-Antoinette aurait donné le signal des applaudissements. Aux origines intellectuelles de la Révolution, on trouve des femmes, nobles ou bourgeoises aisées, qui devancent les dames de la halle dans l'éclatement des troubles révolutionnaires. Entre 1789 et 1799, celles qui méritent le nom d'égérie ont souvent joué un rôle décisif sur le plan politique et celui de la bataille des idées. À la faveur des conversations de salon, par l'écrit et le discours, ou dans l'intimité, mais aussi dans l'action, certaines femmes ont incontestablement influencé les acteurs ou les foules qui mènent le jeu. Les égéries de salon, telles Madame Necker ou Sophie de Condorcet, reçoivent chez elles les encyclopédistes et sont acquises aux idées des Lumières. Mais la plupart des aristocrates sont imbus de leurs privilèges et n'entendent pas y renoncer. Si elles jouissent déjà d'une certaine forme de liberté, que ce soit de vie et de mœurs, celle-ci n'a que peu à voir avec la liberté politique. En revanche, au sein de la petite bourgeoisie, voire de l'aristocratie désargentée, la lecture des philosophes a dès avant la Révolution convaincu certaines femmes éclairées, telles Madame Roland, Charlotte Corday ou Olympe de Gouges, des injustices et même des absurdités d'un système sclérosé. Sans remettre nécessairement en cause le principe monarchique, elle rêve d'en finir avec les privilèges. Prenant appui sur le constat de Jean-Jacques Rousseau, l'homme est né libre, et cependant partout il est dans les fers, elles ont fait leur espérance d'un nouveau contrat social mettant un terme à la tyrannie. La liberté est leur phare. Elles partagent avec les philosophes et les futurs acteurs de la Révolution le désir ardent de secouer les chaînes de la servitude et de participer à l'avènement d'un nouvel ordre politique et social. L'abolition de l'esclavage, l'égalité entre les races, la liberté d'expression, la lutte contre la misère, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, la liberté de divorcer. Olympe de Gouges s'engage bien avant d'autres dans la défense des grandes causes, au travers d'une œuvre à laquelle elle donne les formes les plus variées. Pièces de théâtre, romans, essais, manifestes politiques, pamphlets, lettres. Mais elle a le caractère trop altier et une trop haute idée de la justesse de ses combats pour chercher à faire valoir ses idées par le truchement d'un des grands ténors de la Révolution dont elle aurait été l'égérie. Si sa beauté, son esprit et même son éloquence lui valent de nombreux succès masculins et de fidèles soutiens, il faut attendre près de 2 siècles pour que soient reconnus et son talent et le caractère visionnaire de ses écrits. Lorsqu'éclate la Révolution, Madame de Gouges, qui vient d'avoir 40 ans, a une personnalité au parcours original, connu des milieux intellectuels et artistiques. Son premier combat porte sur l'abolition de la traite négrière et la reconnaissance de l'égalité des races. Les positions anti-esclavagistes de Montesquieu et de l'abbé Raynal ont déjà attiré l'attention sur cette question. Mais en France, Olympe de Gouges est l'une des premières à vouloir porter ce sujet sur la place publique avec une pièce de théâtre intitulée « Zamor et Mirza » ou « L'heureux naufrage ». Soumise au Théâtre français anonymement et soutenue par l'acteur Mollet, la pièce souffre néanmoins d'un double handicap. D'une part, les comédiens du roi, qui sont alors tout puissants sur le choix des œuvres, n'apprécient pas celles écrites par les femmes. D'autre part, le thème de la pièce est audacieux. Les comédiens sont acquis aux grandes familles qui tiennent leur fortune de la traite négrière et dont certaines louent leur loge au Théâtre français. De puissants intérêts financiers sont donc en jeu. Le sujet devient polémique dans les années qui précèdent la Révolution et la tension monte progressivement entre les colons et les abolitionnistes. La traite des Noirs est un sujet qui tient à cœur à Olympe de Gouges. Elle publie donc, début 1788, un essai intitulé « Réflexions sur les hommes nègres ». Olympe multiplie les écrits pour faire valoir ses idées politiques, dont la plupart sont partagées par les patriotes progressistes. Elle publie ainsi des observations sur les étrangers, invitant ses concitoyens à se départir de leurs préjugés et à accueillir les étrangers avec empressement et tolérance. Mais son principal combat tend à la reconnaissance de l'égalité civile et politique entre les hommes et les femmes. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle rend publique en 1791 se veut un acte politique majeur. Pour l'essentiel, la Déclaration des droits de la femme se démarque de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en substituant ou adjoignant aux mots « homme » ou « citoyen » ceux de « femme » ou de « citoyenne ». Mais le texte va bien au-delà. Elle y affirme que la femme naît et demeure égale à l'homme en droit. Revendique pour les femmes la liberté d'opinion et la liberté sexuelle et réclame à ce titre la suppression du mariage et l'instauration du divorce. C'est un véritable manifeste féministe qu'elle adresse à la reine Marie-Antoinette. Avec assurance, De Gouges, ainsi signe-t-elle sa dédicace, expose à la reine qu'il n'appartient pas qu'à celle que le hasard a élevée à une place éminente de donner du poids à l'essor des droits de la femme et d'en accélérer le succès. Enfin, elle l'exhorte un peu plus loin par les mots suivants. Soutenez, madame, une si belle cause. Défendez ce sexe malheureux et vous aurez bientôt pour vous une moitié du royaume et le tiers au moins de l'autre. Olympe a placé la liberté d'expression au-dessus de tout et entend en user sans le moindre frein. D'abord attachée à une monarchie modérée, puis républicaine, elle rejoint enfin les Girondins. En 1793, lors de la Terreur, Olympe de Gouges s'en prend à Robespierre et aux Montagnards, qu'elle accuse de vouloir instaurer une dictature et auxquelles elle reproche des violences aveugles. Après l'insurrection parisienne des 31 mai, 1er et 2 juin, et la chute de la Gironde, elle prend ouvertement parti en faveur de celle-ci à la Convention. Arrêtée le 20 juillet 1793 pour avoir rédigé un placard fédéraliste à caractère girondin, les trois urnes ou le salut de la patrie, Elle est jugée le 2 novembre. Après délibération, le jury est unanime pour condamner ladite Marie-Olympe de Gouges, veuve Aubry, à la peine de mort. À l'énoncé du verdict, elle quitte la salle avec dignité, sans laisser paraître d'émotion. Elle sera la seule femme condamnée par le tribunal révolutionnaire au seul titre de ses récits. 15 jours après Marie-Antoinette, Olympe de Gouges gravit les marches de l'échafaud. En dépit de sa pâleur, elle montre une grande fermeté. Puis faisant face au public, elle s'écrie « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort ».
À réécouter sur francemusique.fr.